le magazine des Nations Unies.
Épidémie de virus Ebola dans le territoire de Béni. L'UNICEF sensibilise près de 3 millions de personnes. L'OMS prend en charge les familles des victimes. Le point avec le chef de communication de l'UNICEF, Yves Viémot, est l'invité du magazine des Nations Unies. Et puis le projet de la sécurisation des grandes maisons carcérales de la capitale grâce aux caméras de surveillance, bientôt une réalité effective avec l'appui de la MONUSCO. Cette semaine, en effet, la prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo ont reçu un deuxième lot de matériel.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. L'UNICEF, l'ONG et l'ORDC, en collaboration avec la Fédération Nationale des Foreurs Manuels, ont organisé jeudi dernier à Kinshasa un atelier sur l'eau à l'intention des investisseurs et autres entrepreneurs. Objectif, impliquer et inciter les acteurs du secteur privé à s'intéresser au business de l'eau à Kinshasa et dans les provinces. Les détails avec vous, Jean-Pierre Elali Coco.
Les statistiques de World Data Atlas de Kanoma estiment la population de la ville de Kinshasa à 18 millions d'habitants en 2028. Cet essor démographique entraînera sans doute des défis, voire de besoins énormes en eau dans cette mégalopole. D'où l'importance pour l'UNICEF et Elan RDC d'impliquer les investisseurs dans ce secteur social vital. Franck Abeille, chef de la section Watch, à l'UNICEF.
L'intérêt de cet atelier aujourd'hui est de permettre aux populations vulnérables d'avoir un accès à de l'eau de qualité. Et pour ce faire, on cherche à mettre en contact, à travers différentes initiatives, des investisseurs, des professionnels du secteur du forage et l'État et des communautés.
Madame Alerte Alpha Mboyo, responsable financier à Elan RDC, insiste.
Les entrepreneurs qui investissent déjà dans l'eau partagent leurs expériences. Nous avons également 3 banques, BOA, Advance Bank et Equity, qui sont venus en fait présenter les différents produits pour ces investisseurs.
Pour le vice-ministre au plan Xekpele Mandombe, les investisseurs peuvent compter sur l'appui et l'encadrement du gouvernement.
Phénomène aussi vital et important, l'eau, c'est la vie. Tenons à les appuyer à travers nos différentes structures, à l'occurrence le CNAE, une structure spécialisée du ministère des Plans, pour que les solutions appropriées attendues du peuple congolais en général puissent être trouvées.
Pour rappel, l'État congolais, par la loi du 31 décembre 2015, a libéralisé l'exploitation, la distribution et la vente de l'eau.
Et bien la prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo ont reçu chacune le mardi 11 septembre 2018 un deuxième lot du matériel de vidéosurveillance. La délégation de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO qui a porté ces équipements était conduite par Madame Patience Sai. Honoré Missenga Kalala a accompagné cette délégation.
Les équipements apportés par la délégation de Madame Patience Sai étaient composés notamment des caméras digitales, des écrans TV, des panneaux solaires et de bien d'autres matériels électriques. La première étape a été celle de la prison centrale de Makala. Pendant la cérémonie, Madame Sai a circonscrit l'action et son objectif.
L'unité d'appui à l'administration pénitentiaire, c'est une unité qui se charge de tout ce qui a trait à la gestion du système pénitentiaire. Donc, une partie de notre appui, c'est les équipements de sécurité. Donc, ce lot-là que vous avez actuellement, c'est des équipements de sécurité. C'est des systèmes de surveillance électronique qui va permettre à l'administration pénitentiaire de mieux faire le monitoring et le suivi de mouvement du personnel et de détenus pour s'assurer qu'on puisse avoir de meilleures de sécurité dans l'enceinte du bâtiment.
Et après la remise des équipements, devrait suivre leur installation. Madame Sai.
Je pense que ça ne peut pas traîner. La semaine prochaine, nous allons essayer de mettre les techniciens en contact avec le management de la prison afin qu'ils puissent planifier. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être même la semaine prochaine, c'est possible que les installations commencent.
À l'étape d'Indolo, il y a eu plus d'enthousiasme lors de la cérémonie, surtout de la part de la direction de cette maison carcérale, comme vont le manifester dans leurs propos ces officiers.
Je tiens à remercier de vive voix nos partenaires que j'ai toujours considérés comme partenaires de taille, la MONUSCO, pour avoir concrétisé la promesse. Et j'ose croire que ce n'est pas la première et dernière fois. Et ça sera ainsi jusqu'à ce que nous aurons à atteindre nos objectifs qui
qui nous sont effectivement assignés par l'échelon supérieur.
Une fois de plus, vous êtes ensemble avec nous. C'est une preuve supplémentaire que la MONUSCO nous accompagne dans la sécurisation de nos maisons de détention. C'est grâce à la MONUSCO, à l'époque Monique, que nous avons eu les financements pour la reconstruction de cette prison. C'est toujours grâce à la MONUSCO que nous avons eu le quartier des officiers. Le premier geste posé par la MONUSCO, c'était des couvertures pour les détenus.
Selon la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, cette action était un projet pilote qui pourrait s'étendre dans les jours à venir à d'autres grandes prisons de la RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une cinquantaine d'auditeurs et officiers militaires FRDC ont pris part du 4 au 8 septembre 2018 à Kinshasa à une formation sur le genre, la santé sexuelle, le VIH et les droits humains. Une initiative du ministère de la Justice avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Madame Mujinga est le point focal du ministère de la Justice dans ce programme. Elle répond ici aux questions d'Honoré Misenga Kalala.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Des auditeurs officiers militaires en formation sur le genre, la santé sexuelle, le VIH et les droits humains, c'est pour quoi faire?
Cela fait bientôt plus de 30 ans que la lutte contre le VIH a été déclenchée. Il y a eu des avancées significatives sur le plan médical, dans ce sens qu'on a eu à trouver des ARV, des produits qui améliorent la qualité de vie des personnes vivant avec VIH et prolongent même la durée de leur vie. Mais seulement, il y a un problème. On a constaté qu'il y avait des obstacles majeurs pour mettre fin aux nouvelles infections surtout. Ces obstacles sont des violations des droits de l'homme qui se traduisent par la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec VIH et personnes affectées. Étant donné que dans notre pays, il y a une loi, la loi 08/011 du 14 juillet 2008, qui porte protection des droits des personnes vivant avec VIH et des personnes affectées. Cette loi-là prévoit certaines dispositions qui sanctionne la stigmatisation et la discrimination. Nous avons constaté qu'elle est non seulement ignorée des personnes vivant avec VIH et personnes affectées, et même ignorée des acteurs judiciaires qui peuvent réprimer ce comportement de stigmatisation et de discrimination. Et nous avons estimé qu'il fallait renforcer la capacité des acteurs judiciaires.
Pourquoi seulement ces acteurs judiciaires militaires?
Ce n'est pas seulement des acteurs judiciaires militaires. Je peux vous dire que jusqu'à ce jour, on a eu à renforcer la capacité de plus ou moins 970 magistrats à travers toute la République. Et ce groupe de magistrats militaires et des inspecteurs de l'auditorat militaire et de la haute cour militaire, c'est un groupe qui s'ajoute au groupe de ceux qu'on a déjà renforcés en capacité. Parce que le mois passé, nous avons eu à renforcer la capacité de plus ou moins 50 policiers. Et nous continuons la série. Il y a aussi des policiers, il y a des magistrats, il y a des avocats. Au fait, le but poursuivi, c'est que ces acteurs judiciaires puissent s'approprier de cette loi-là, de la connaissance sur le VIH, et des droits des personnes vivant avec VIH pour pouvoir sanctionner. Comme ça, quand ils auront en face d'eux quelqu'un qui est victime de stigmatisation, l'acteur judiciaire aura compris l'importance et le dégât de la stigmatisation sur la population d'une manière générale, afin de pouvoir sanctionner les auteurs de cette infraction-là. Voilà la raison pour laquelle nous sommes dit qu'il faut vraiment qu'on sensibilise le plus grand nombre possible des acteurs judiciaires pour qu'ils puissent mettre fin à la stigmatisation.
Alors madame, vous êtes point focal pays VIH et droits humains du ministère de la Justice. Quel est votre rôle dans cette lutte?
Oui, je suis point focal pays droits et VIH du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est le ministère qui joue le rôle de leadership dans la lutte par rapport aux droits. Parce que la lutte n'est plus seulement sur le plan médical, maintenant c'est par rapport aux violations des droits de l'homme. Alors moi, en tant que point focal, je dois veiller à tout ce qui est environnement favorable sur le plan juridique par rapport aux personnes vivant avec VIH, personnes affectées et par rapport à certaines populations vulnérables et populations clés. Donc je dois veiller à ce que les lois qui sont prises dans notre pays, les textes qui sont pris, ne puissent pas avoir des dispositions qui affectent ou qui affaiblissent, qui s'attaquent plutôt aux droits de ces personnes-là, pour éviter qu'ils ne puissent continuer à vivre en clandestinité. Je dois veiller à ce que toutes les lois comprennent dans le pays, que ces lois-là ne puissent pas, disons, préjudicier les droits des personnes vivant avec VIH et les personnes affectées. Je dois veiller à l'application de ces droits-là qui sont favorables, notamment à l'application de la loi portant protection des droits des personnes vivant avec VIH et des personnes affectées. C'est comme ça que dans mon domaine, là, nous avons eu à faire une revue, nous avons fait une revue de tous les textes juridiques dans notre pays pour voir quels sont les textes qui préjudicient les droits des personnes vivant avec VIH. Et cela, ça nous a aidé à pouvoir faire un manuel qui nous permet maintenant de répertorier quels sont les droits qui sont favorables aux personnes vivant avec VIH. C'est pour essayer de les protéger contre la stigmatisation et la discrimination.
Alors, madame, dans ce combat, vous avez plusieurs partenaires, dont le PNUD. Quel est le rôle du PNUD?
Au niveau des Nations Unies, c'est le PNUD qui porte la question des droits humains dans la lutte contre le VIH. Et depuis que nous avons commencé les activités, nous pouvons dire que c'est le PNUD qui a toujours appuyé toutes ces activités. Laissez-moi vous dire que nous avons commencé depuis 2013 avec le PNUD. Jusqu'à ce jour, le PNUD continue, les Nations Unies à travers le PNUD continuent à nous appuyer dans toutes les activités que nous sommes en train de mener pour lutter contre le VIH. Nous avons eu à le faire dans plusieurs provinces, dans l'ancienne confédération. Nous avons eu à le faire dans 8 provinces. Maintenant, depuis cette année, nous sommes vers le Maniema, nous sommes allés dans le Lualaba, nous sommes dans les Tanganyika, on est allé dans le Kasaï central et nous le faisons comme ça à travers toute la République pour avertir la population, pour sensibiliser les acteurs judiciaires, leur dire que le VIH est là et qu'il y a moyen de mettre fin aux nouvelles infections seulement si nous prenons en considération le volet de la stigmatisation qui empêche les personnes vivant avec VIH de se présenter aux services liés au VIH, notamment au dépistage, à la prise en charge, et quand leurs droits sont violés, ils doivent se retrouver devant la justice pour porter plainte et se retrouver devant des interlocuteurs qui sont déjà informés sur la question du VIH et du droit. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Je dis que le travail est énorme. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir fait beaucoup compte tenu de l'étendue de la République, mais nous avons la foi qu'avec les personnes que nous formons, nous les considérons comme étant des formateurs de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à ce genre d'activité.
Madame Radio Kapi, vous remercie.
Je vous en prie.
Cette page de nouvelle en bref par le Neurobangui ou le ACR est depuis le 4 septembre dernier à la phase d'essai de son projet de fabrication par les réfugiés centrafricains et les autochtones des briquettes et des foies améliorées. Cela, toujours dans l'approche de l'agence onusienne de l'autonomisation des réfugiés. Le ACR réalise ce projet avec son partenaire, l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADS, et grâce au financement du Fonds central d'intervention d'urgence, CER. Les briquettes sont fabriquées à base de matériels locaux disponibles, l'argile, la poussière de braise, les résidus ou les déchets de farine de manioc, les coupeaux d'arachide et de café notamment. Cependant, c'est le ACR qui a mis à la disposition des réfugiés et des autochtones les matériels de support comme les boyeurs, les malaxeurs mécaniques, les presses à bois et les incinérateurs entre autres. Les briquettes fabriquées sont destinées à la vente pour augmenter les revenus et à l'usage domestique. Volet humanitaire toujours avec le programme alimentaire mondial PAM qui vient de lancer sur les réseaux sociaux une campagne dénommée I Love Congo, j'aime le Congo. C'est donc le vendredi 14 septembre 2018 que cette campagne a été lancée à Kinshasa avec comme objectif sensibiliser sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo afin de trouver des nouveaux et meilleurs moyens d'y répondre. Selon le PAM, la RDC représente à elle seule 10% des besoins humanitaires mondiaux, mais ne reçoit que 3% du financement de ses besoins. Au-delà de l'humanitaire, la campagne du PAM a l'ambition, à long terme, de créer un élan d'action susceptible d'atteindre les couches les plus défavorisées du pays et de mettre en évidence la façon dont les populations congolaises démunies pourront devenir autonomes et autosuffisantes. Enfin, visite de compassion du directeur pays de l'ONU Habitat aux victimes de l'incendie du quartier Nalukemba à Bukavu. C'est donc le samedi 9 septembre dernier que M. Abel Wallendum s'était rendu sur l'avenue Irambou dans ce quartier touché en août dernier par un incendie. Félix Ngadano, 43 ans, est l'une des victimes de ce sinistre, a salué le réconfort moral du directeur pays du programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. Il a cependant émis le vœu à l'endroit du visiteur que les activités d'assistance soient bien coordonnées pour permettre aux sinistrés démunis de retrouver un train de vie normal.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Honor Kilou, l'UNICEF mène une campagne de sensibilisation et de prévention contre la maladie à virus Ebola. À ce jour, cette sensibilisation a atteint près de 3 millions de personnes. Comment l'UNICEF s'y prend-elle? Réponse avec Yves Vihimot. Il est responsable de communication dans cette agence onusienne. Il s'entretient avec Jean-Pierre Lali Coco.
Yves Vihimot, bonjour.
Bonjour.
Selon un communiqué, l'UNICEF et ses partenaires ont sensibilisé à ce jour près de 3 millions de personnes sur la prévention de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu. Atteindre un tel chiffre n'est pas vraiment facile. Comment avez-vous procédé?
C'est une multitude d'activités qui sont menées par l'UNICEF aux côtés du gouvernement de la RDC et des partenaires qui s'organisent dans la riposte contre Ebola. C'est une multitude d'activités qui inclut l'organisation de campagnes de prévention dans les églises, au niveau des radios communautaires, au niveau d'activités de relais communautaires qui font du porte-à-porte, maison après maison. C'est une distribution d'affiches, de posters au niveau des marchés. Donc c'est une multitude d'activités dans le cadre duquel nous essayons de s'assurer que tous les groupes cibles sont informés quant aux mesures de prévention à respecter pour éviter la propagation de la maladie.
Oui, on sait que la maladie a comme épicentre le territoire de Beni. Alors, quelles sont les zones concernées justement par votre sensibilité?
La tension est particulièrement importante au niveau de la ville de Beni, mais également au niveau de la région de Mangina et puis par extension également des régions du côté de la province de l'Ituri. Et avec les dernières informations quant aux cas qui ont été confirmés du côté de Butembo, nous allons devoir également accélérer et développer des activités de prévention du côté de Butembo également.
Parmi les sensibilisateurs, j'ai lu dans les communiqués, on compte 8 survivants d'Ebola. Quel est l'impact de leur présence dans cette sensibilisation?
Leur présence est essentielle parce que le fait même qu'ils sont survivants d'Ebola envoie un message clair au niveau de la population, au niveau des communautés, qu'une prise en charge à temps de personnes touchées par la maladie permet ou peut permettre de sauver des personnes qui sont touchées par Ebola. Donc le fait même que ces personnes participent aux activités de sensibilisation permet tout naturellement de transmettre un message aux communautés qu'il est important, quand des personnes ont des symptômes qui peuvent être des symptômes de la maladie Ebola, que ces personnes soient orientées le plus rapidement possible vers les services de santé et les services sanitaires adéquats pour une prise en charge, ce qui n'augmentera que leur chance de survie s'il est confirmé qu'ils sont infectés par la maladie Ebola.
Donc la présence de ces survivants, c'est un témoignage qu'on peut guérir de cette maladie.
En effet, c'est un témoignage et nous savons également qu'il y a au niveau des communautés parfois une hésitation parce que le renvoi de personnes dans des centres de traitement Ebola, malheureusement, se termine souvent par le décès parce que le taux de fatalité reste quand même élevé. On parle de 50% des cas qui décèdent de la maladie. Mais ces personnes-là, de par leur présence, prouvent qu'une prise en charge rapide peut augmenter les chances de survie.
Comment cette sensibilisation se fait-elle auprès des enfants vulnérables, notamment en cette période de rentrée scolaire?
Au niveau de la rentrée scolaire, il est important de s'assurer que les écoles soient des environnements sécurisés, des environnements qui permettent aux enfants de suivre leur éducation d'une manière sécurisée. Et pour ce faire, nous avons aux côtés du gouvernement un plan ambitieux qu'on est en train de mettre en œuvre, dont la mise en œuvre se finalise pour ce qui est des régions affectées de Beni et de Mangina, et qui consiste à installer dans toutes les écoles des lave-mains et de fournir à toutes les écoles également des thermomètres laser qui permettent de suivre d'une manière continue la situation sanitaire des enfants et d'identifier éventuellement des cas d'enfants qui seraient possiblement atteints de la maladie. Ce qui est également très très important, c'est que nous avons formé des enseignants et des directeurs d'école au niveau de la maladie pour qu'il y ait une bonne compréhension de la maladie, une bonne compréhension des techniques de prévention à mettre en œuvre, et également une bonne compréhension quant à la manière d'informer les enfants pendant leur première journée de classe quant aux bonnes techniques de prévention.
On sait bien que aujourd'hui l'UNICEF se concentre essentiellement dans la riposte sur les actions de prévention. Envisage-t-elle des actions pérennes en période post-Ebola, par exemple, dans cette région concernée par cette épidémie?
Oui, tout à fait. Et ce sont des activités que nous menons alors que nous nous parlons dans la province de l'Équateur qui a été, comme vous le savez, touchée par une épidémie d'Ebola au mois de mai. Nous n'en parlons plus beaucoup parce que beaucoup d'attention est aujourd'hui, pour des raisons évidentes, consacrée à la situation dans la province du Nord Kivu, la province d'Ituri. Mais dans la province d'Équateur, aujourd'hui, nous menons des activités de sensibilisation pour éviter que nouvelle épidémie d'Ebola puisse s'installer, des campagnes de sensibilisation qui incluent également la promotion des bonnes pratiques d'hygiène, du lavage des mains, mais également une conscientisation quant à la population au niveau de la consommation de viande d'animaux morts qui seraient trouvés dans la forêt, une consommation qui est à éviter à tout prix parce que c'est de cette manière-là que malheureusement la maladie peut se développer.
Pour terminer, peut-être un message d'espoir?
Il est important que la population sache que la maladie Ebola est une maladie qui peut être évitée grâce à des bonnes pratiques d'hygiène et il est également important d'éviter la propagation de la maladie en s'assurant que toute personne qui aurait des symptômes qui pourraient être liés à Ebola soit mise en contact le plus rapidement possible avec les services sanitaires compétents afin d'éviter qu'il y ait tout risque de propagation.
Yves Viemont, Radio Capi vous remercie.
Merci à vous.
Prise en charge des familles victimes de la maladie à virus Ebola, c'est une promesse, disons plutôt un engagement pris par l'Organisation mondiale de la santé OMS en réponse à la revendication des plusieurs familles de Mangina, à Beni, en Nord Kivu, affectées par cette épidémie. Suivez plutôt le docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique et coordinateur de la riposte contre Ebola. Il est au micro de Sekumbi Katondolo.
Au début de la réponse, les moyens arrivent progressivement. Donc, il y a des manquements aussi que nous avons constatés, que nous essayons de corriger. Et donc, ceci étant, on sait que cela fragilise aussi les communautés qui doivent tout reconstruire. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait pour que les effets des contaminés ou brûlés soient remplacés à leur juste valeur. Donc, c'est une plainte que nous prenons en considération et avec les autorités nationale, notamment du ministère de la Santé et des partenaires, nous y travaillons pour que les communautés qui ont tout perdu, parfois qui ont malheureusement perdu une personne chère, soient aussi pénalisées par le fait qu'on brûle tous leurs biens et donc nous mettons tout en œuvre pour que ces aspects-là soient rapidement corrigés.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche a trait à l'enquête de l'assassinat de deux experts de l'ONU tués en mars 2017 au Kasaï. C'est le procureur canadien Robert Petit qui répond.
C'est Jean-Pierre Elali des Radio Capi. Ma question s'adresse à Robert Petit. Vous êtes une équipe, vous venez des Kananga. Vous avez dit que vous apportez un appui conseil à la justice congolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les avancées de l'enquête que vous avez constatées dans les chefs de la justice congolaise et ce que vous faites exactement dans votre conseil?
Vous comprendrez, j'espère, que je ne commenterai pas les faits spécifiques à l'enquête. Ce n'est certainement pas dans les bonnes pratiques de commenter en public les faits d'une enquête. Là où la preuve se déroule en public, c'est lors du procès. Et c'est là qu'on peut connaître la preuve telle qu'elle a été collectée pendant l'enquête. Donc, je ne commenterai pas spécifiquement les faits de l'enquête. que je peux dire, c'est que effectivement, depuis l'année dernière, nous avons tenté d'appuyer du meilleur de nos possibilités cette enquête. Vous avez raison de dire que ça fait déjà plus d'un an que toutes les familles, les 6 familles, ont le droit de s'attendre à que la vérité soit établie le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous allons essayer de faire et d'aider la justice congolaise à faire dans les meilleurs délais. Le procès lui-même a repris, donc il y a une audience, il y a des audiences qui vont se continuer où preuve qui a été accumulée pendant l'enquête va être présentée à la Cour et ce sera là le forum où ces faits-là pourront être discutés.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Patricia Cello. Je suis célibataire, licenciée en anglais, en linguistique et culture africaine et américaine aussi. J'ai fréquenté l'IPEN et l'ISP, l'IPEN où j'ai fait le graduat et l'ISP où j'ai fait ma licence. J'étais à l'Institut Mukengeli de Limba comme professeur d'anglais. J'ai eu l'occasion de prester à 11 promotions depuis 1994 jusqu'en 2006 où j'ai dû quitter à cause de changements de carrière et puis j'étais empêchée parce que je pouvais pas faire les deux à la fois. Travailler à la MONUSCO comme consultante, aussi à Mukengeli. Voilà, j'ai dû faire un choix parce que dans la vie, ça arrive qu'on fasse deux choix. J'ai dû intégrer, comme je le disais, en 2004, la MONUSCO comme consultante. J'y allais prester des cours et ça m'a permis de aussi faciliter les staffs de Nations Unies à facilement s'intégrer. J'ai aidé les staffs à remonter leurs compétences linguistiques parce que c'est un environnement multiculturel où on a eu à contacter plusieurs gens de différentes cultures et tout le monde n'est pas francophone, comme vous le comprenez. Et là, j'ai dû travailler comme ça jusqu'en 2006, où j'ai eu mon intégration parce que j'ai dû postuler comme admin. Et là, je fais l'administration et la formation en même temps. Je suis au centre de la MONUSCO qui s'occupe de la formation. En anglais, c'est le IMTC. Le Integrated Mission Training Center. Je m'occupe là de la formation, de l'administration en même temps. Le but, c'est vraiment le renforcement de capacité des staffs. On sillonne là où la MONUSCO est dans tous les secteurs en renforçant les capacités des staffs. Voilà, c'est ça notre travail. Concernant la musique, j'aime plus Mozart et Beethoven. Je l'ai appris de mon père. Voilà. J'aime le football et j'aime manger des légumes. J'ai commencé aussi à aider les enfants parce que dans mon église, je suis à l'Écodim et là, j'aide les enfants à remonter leurs valeurs et ça, j'aime beaucoup. Comme projet d'avenir, j'aimerais m'occuper plus des enfants et ensuite avoir plusieurs formations et faire plusieurs certifications afin d'être à la hauteur tout le temps, comme je le disais. C'est un besoin qui a toujours brûlé mon cœur et j'aimerais aussi changer d'option de temps en temps parce que j'aime la diversité. Un grand coucou aux auditeurs qui m'ont suivi. Je leur dis merci pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette tranche d'émission et spécialement aux gens qui me connaissent et à tous les Limbiens. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et voilà quelques rendez-vous que nous vous proposons dans ce magazine des Nations Unies. Le 20 septembre, c'est la journée internationale de la liberté. Le 21 septembre, la journée internationale de la paix. Le 21 septembre toujours, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et puis le 22 septembre, journée mondiale sans voiture. la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Polydor Basunga. Au reportage, Honoré Missinga Kalala, à la coordination, réalisation et reportage également, Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangui. À très bientôt sur Radio Capi. Ciao.